Le journal vous est présenté par Frédéric Barrère. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir et bienvenue dans cette édition de 19h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information dans l'actualité ce soir. Dénouement heureux, la petite Mia, 8 ans, retrouvée saine et sauve après 5 jours de recherche. La fillette, enlevée mardi, se trouvait avec sa mère dans un squat en Suisse. 5 personnes ont été interpellées. Ariane Grissel, dans un instant. La frayeur des variants et la menace d'une épidémie hors de contrôle, la France va progressivement imposer une quarantaine obligatoire aux voyageurs venant d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud et de Guyane. Une mesure pertinente mais pas suffisante. Henri Fleury, virologue au CNRS.
C'est une mesure pertinente, mais on ne peut pas bloquer un virus à 100%, quelles que soient les mesures. Il va falloir peut-être prendre des mesures vis-à-vis de toutes les zones qui peuvent nous contaminer avec du virus brésilien.
Dans ce journal également, Xavier Bertrand demande au gouvernement de changer les priorités vaccinales. L'état de santé très préoccupant d'Alexei Navalny en grève de la faim et une visite des momies égyptiennes dans leur nouveau musée au Caire. Vos rendez-vous du 19h, la page sport avec au menu du football et une incertitude concernant la Ligue des Champions. 12 grands clubs envisagent de créer une compétition concurrente. Du tennis avec la victoire de Tsitsipas au Master 1000 de Monte-Carlo et on s'intéressera aux champions épuisés et au burn-out, notamment dans le cyclisme. Notre coup d'œil sur l'agenda avec les temps forts de l'actualité à suivre la semaine prochaine. Et puis, micro ouvert à la superstar de la semaine prochaine, Thomas Pesquet se confie à Sophie Becherel avant sa deuxième mission dans l'espace. La météo pour demain, des nuages au nord, du soleil ailleurs. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal et à 19h30, les petits bateaux Noël Bréham.
Je m'appelle Mathieu, j'ai 8 ans. J'aimerais savoir pourquoi dès qu'on dort profondément, ben on sent rien et on n'entend rien.
Les petits bateaux, Noël Bréham, après ce journal.
France Inter.
C'est un énorme soulagement pour la famille et notamment les grands-parents de la petite Mia, 8 ans, retrouvée en bonne santé aujourd'hui. La petite fille était avec sa mère dans un squat en Suisse. Ce soir, on en sait un peu plus sur les conditions de l'enlèvement mardi dernier de la fillette. Et dans l'enquête, 5 personnes ont été interpellées. Une 6e est en cours d'identification. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Et le rapt mardi dernier a été mené comme une opération militaire.
Oui, militaire, c'est l'expression employée par le procureur de Nancy. L'action avait même un nom, Opération Lima. Les suspects ont de 23 à 60 ans. Ils se sont connus via les réseaux sociaux, ont des surnoms comme Bouga, Corbeau, Pitchoun ou Jeannot et une même idéologie. François Perrin, le procureur de la République de Nancy.
Ces hommes sont plutôt insérés socialement et ne sont pas connus de la justice. Ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux et partagent une même communauté d'idées. Ils sont contre l'État, pensent que les enfants placés dans le cadre de la protection de l'enfance sont enlevés injustement à leurs parents. Toutes ces opinions exprimées ne constituent bien évidemment pas un délit, mais ils pensent également qu'il faut agir pour restituer les enfants placés à leurs parents. Et là, nous tombons bien dans le domaine de la loi pénale.
Les ravisseurs s'étaient procurés toki-woki, postiches et faux certificats de la protection judiciaire de la jeunesse. Après l'enlèvement, ils ont traversé la frontière franco-suisse à pied, 2 heures de marche pendant lesquelles ils se sont relayés pour porter Mia, selon leur récit. Une demande d'extradition a été faite à la Suisse pour que la mère de la fillette soit livrée rapidement à la justice française. Quant aux 5 suspects déjà arrêtés, ils sont présentés en ce moment à un juge d'instruction de Nancy. Le parquet a demandé leur mise en examen pour enlèvement en bande organisée sur mineurs de 15 ans, des faits passés cible de la réclusion à perpétuité.
Ariane Grissel, merci. Et les grands-parents paternels de Mia sont bien sûr heureux. Ils remercient les enquêteurs d'avoir retrouvé leur petite fille saine et sauve, comme l'explique leur avocat Guillaume Faure.
C'est avec un énorme soulagement que chacun peut comprendre, à mon avis, que les grands-parents paternels de Mia ont appris qu'elle a été retrouvée saine et sauve. La découverte de Mia met fin pour eux à des jours et des nuits d'angoisse et de crainte pour la vie de l'enfant, et notamment en raison des engagements extrémistes des ravisseurs. Ils m'ont demandé de faire part de leur gratitude à l'égard de tous ceux qui ont participé aux recherches et notamment aux services judiciaires et enquêteurs qui ont été extrêmement efficaces. Nous allons faire une requête afin que soit réexaminée la situation de leur petite fille, afin qu'elle soit parfaitement en sécurité et dans un cadre équilibré.
Maître Guillaume Faure avec Maya Baldoureau-Fredon de France Bleu Drôme Ardèche. La menace des variants est pour éviter une crise épidémique hors de contrôle en raison du variant brésilien. La France va instaurer une quarantaine obligatoire de 10 jours pour les voyageurs venant du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud. Cette mesure de quarantaine sera mise en place progressivement et concernera également la Guyane. Les personnes à l'isolement seront contrôlées. Il y aura des amendes plus lourde en cas d'infraction. Cette quarantaine pour les voyageurs est pertinente, mais ne constitue pas un bouclier hermétique, selon Henri Fleury, virologue et professeur émérite au CNRS et à l'Université de Bordeaux.
C'est une mesure pertinente, mais on ne peut pas bloquer un virus à 100%, quelles que soient les mesures. D'ailleurs, il est déjà en France, en tout petit pourcentage, mais il faut le faire. Il n'y a pas d'autres mesures immédiates à prendre. Il faut faire de la quarantaine et de l'isolement et de la surveillance. Il faut manœuvrer à l'asiatique, si je puis dire, c'est-à-dire comme les Coréens, comme les Chinois, il faut absolument vérifier que l'isolement est maintenu pour ces patients qui sont infectés ou qui sont infectables par du virus brésilien. Et il faut renforcer la surveillance des souches en France pour voir la montée de pourcentage si ce virus doit monter derrière le variant britannique.
La suspension des vols depuis le Brésil court jusqu'à samedi prochain uniquement. Est-ce qu'il va falloir l'étendre d'après vous ?
Moi, franchement, je pense qu'il va falloir l'étendre. Il va falloir peut-être prendre des mesures vis-à-vis de toutes les zones qui peuvent nous contaminer avec du virus brésilien.
Le virologue Henri Fleury avec Jules Dequisse. Et puis, concernant la vaccination, le vaccin AstraZeneca a très peu de succès. On le sait, il fait même figure d'épouvantail. À Nice, par exemple, le centre de vaccination pour les professions prioritaires est resté fermé aujourd'hui, faute de volontaires. Le centre proposait des vaccinations avec AstraZeneca, 4000 doses. 58 personnes seulement se sont présentées. Même si les médecins appellent à arrêter l'AstraZeneca bashing, ce n'est pas un vaccin au rabais, selon Véronique Mondin, infectiologue à Lice. Sur la campagne elle-même de vaccination en France, près de 15 millions de personnes ont été vaccinées ou ont reçu une première injection. Il faut continuer, mais en vaccinant maintenant toutes les personnes en première ligne, selon Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et candidat à la présidentielle, invité à la mi-journée de questions politiques sur France Inter. Le gouvernement doit changer ses priorités.
Je pense qu'il faut changer les priorités vaccinales avec ceux qui travaillent en première ligne, qui ne télétravaillent pas. Les enseignants, tous les enseignants qu'ils souhaitent, le personnel également qui n'est pas du personnel enseignant, qui est aussi dans les écoles, les collèges et les lycées, les forces de sécurité, également tous ces travailleurs qui ne télétravaillent pas, qui sont plus exposés que les autres, qui peuvent aussi contaminer plus de personnes, mais même s'il y a moins de clients aujourd'hui, un chauffeur de taxi est en contact avec beaucoup de monde. La caissière dans une supérette ou dans un hypermarché, elle est au contact. Ceux des ouvriers qui doivent tenir leur place et qui sont au contact, même avec les gestes barrières, de leurs collègues. Tous ces salariés de la deuxième ligne, la première ligne c'était les soignants, ceux-là, on doit leur proposer en priorité.
Xavier Bertrand avec Ali Badou. À l'étranger, l'état de santé d'Alexei Navalny inquiète Washington, Berlin et Paris. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se saisiront demain du cas de Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, emprisonné et entamé une grève de la faim le 31 mars. Son état de santé est préoccupant. Ses médecins craignent un arrêt cardiaque à tout moment. À Moscou, les partisans de Navalny appellent à manifester mercredi prochain. Washington prévient qu'il y aura des conséquences pour la Russie si Navalny meurt. Berlin demande d'urgence un traitement médical. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, évoque la responsabilité majeure du président Poutine.
Moi, je considère que la situation de M. Navalny est extrêmement préoccupante. Cet opposant, victime d'un empoisonnement chimique, emprisonné dès son retour, maintenant mis au loin de la capitale, puis maintenant en grave difficulté de santé, ce n'est pas possible. Je considère que la Russie a la responsabilité de la santé de M. Navalny, il faut qu'elle l'assume. Et je souhaite que les mesures soient prises pour assurer non seulement l'intégrité physique de M. Navalny, mais aussi sa libération. Il n'y a pas de raison qu'il soit emprisonné. Ça n'empêche pas qu'il faille continuer à parler avec la Russie, malgré tout, parce que c'est notre voisin. Il est encombrant, mais il est là.
Mais Vladimir Poutine a une responsabilité personnelle.
Je l'estime.
Jean-Yves Le Drian, à la mi-journée, invité de France 3. Et ce soir, l'ambassadeur russe à Londres indique que Moscou ne laissera pas Navalny mourir en prison. En France, à Florac, près de Bordeaux, un retraité tué à coups de pied. 4 hommes de 20 ans et 21 ans viennent d'être mis en examen et écroués pour le meurtre la semaine dernière d'un homme de 68 ans, roué de coups au visage. Le retraité a été retrouvé gisant dans les parties communes de sa résidence. Les agresseurs ont expliqué que la victime avait eu des propos déplacés à l'égard d'une jeune femme du groupe. Clémentine Vergniaud, France Bleu Gironde.
Un véritable passage à tabac, voilà ce qu'évoque une source judiciaire. Un retraité face à 4 jeunes, des jeunes d'une vingtaine d'années qui ne sont pas du quartier, originaires de la communauté urbaine, mais on ne sait pas précisément de quelle commune. On ne sait pas non plus pourquoi ils étaient dans ce quartier du Haut-Floirac, un quartier paisible d'après les habitants, dans lequel il ne se passe rien, sauf samedi. Ces jeunes affirment que le retraité leur a fait une réflexion. Après ça, les coups violents, nombreux à la tête, notamment, tous les reconnaissent ces coups, mais aucun n'endosse la responsabilité d'avoir tué un homme, explique cette même source judiciaire. 3 d'entre eux sont inconnus de la justice, ont un casier vierge. Le dernier, lui, a déjà été condamné quand il était mineur. C'était à l'époque pour des faits de violence.
Clémentine Vergniaud, France Bleu, Gironde. Il y a 15 jours, l'Égypte nous avait proposé une mise en scène grandiose pour une impressionnante procession de momies au Caire. Un spectacle son et lumière, des chars avaient traversé la capitale égyptienne, transportant 22 rois et reines d'Égypte dont le pharaon Ramsès II. Aujourd'hui, les 22 momies royales ont retrouvé leur public dans leur nouveau musée de la civilisation égyptienne. Martin Roux, notre correspondant au Caire, a fait la visite.
C'est dans un dédale de couloirs aux murs noirs que sont exposées les 22 momies royales. Dans le sous-sol de ce musée en forme de pyramide, cette scénographie reproduit l'agencement des tombes des pharaons. Au-dessus de ces corps chétifs allongés les bras en croix, visiteurs égyptiens et étrangers se pressent. Parmi eux, il y a Christine Kerrois.
Vous avez vu leur système avec les flashcodes, c'est vachement bien fait. On a toute l'histoire de la momie.
Elle est venue avec sa fille Chloé, 17 ans, mordue d'Égypte antique, qui en a profité pour accompagner sa mère en déplacement professionnel.
Même les tissus sont conservés, les cheveux, les dents. C'est incroyable.
Les souverains Ramsès II et Hatshepsut sont les vedettes de ce musée, mais ils renferment bien d'autres trésors, comme l'explique la guide Manar Nabil.
Vous trouverez tout, depuis la préhistoire jusqu'à la période moderne et la dynastie de Mohamed Ali. Ce n'est pas seulement pharaonique, copte ou islamique, c'est tout ce qui se rapporte à la civilisation égyptienne.
Elle constate depuis un mois une légère reprise du tourisme. Pour Christine Kerrois et sa fille Chloé, le rendez-vous est pris. Le prochain voyage sera pour l'inauguration du grand musée égyptien de Gizeh. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
Voilà les momies, attraction des touristes au nouveau musée du Caire. h 13 sur France Inter, la page sport de cette édition. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Frédéric.
L'Europe du football est dans la tourmente. 12 grands clubs envisagent de créer une Super League au détriment de la Ligue des Champions.
Alors rien n'est encore officiel, mais la menace se précise alors que l'UEFA s'apprêtait à annoncer demain une réforme de la Ligue des Champions. L'UEFA qui a d'ailleurs réagi au projet de ses clubs, Alexandre Vaux.
Oui, elle menace tout simplement d'exclure les clubs qui participeraient à cette compétition. L'instance européenne rappelle, comme annoncé précédemment par la FIFA, la Fédération Internationale, que les clubs concernés se verront interdire la participation dans toute autre compétition et leurs joueurs pourraient se voir refuser la possibilité de représenter leurs équipes nationales, autrement dit priver ces joueurs de toute carrière internationale. Plusieurs doutes, Vincent, persistent concernant la viabilité de ce projet, vous l'avez dit, de Super League, véritable serpent de mer du football européen, souvent agité par les grands clubs pour obtenir davantage de la part de l'UEFA, qui, vous l'avez dit, se réunit demain. Le timing est important. Les clubs allemands ont refusé de s'engager, comme le Paris Saint-Germain, qui serait le seul club français à avoir été contacté. Symbole de l'importance du dossier pour terminer et des millions d'euros en jeu, Emmanuel Macron a pris position et salue justement celle du PSG. Il précise aussi que l'État appuiera toutes les démarches pour protéger l'intégrité des compétitions fédérales, qu'elles soient nationales ou européennes.
Voilà, ce ne sont peut-être que les prémices d'un long conflit.
La Ligue 1 de football, Vincent, lutte toujours aussi serrée, indécise pour le titre.
Oui, le leader Lille a concédé le nul face à Montpellier avant-hier. L'AS Monaco vient de s'imposer à Bordeaux 3-0. Et en début d'après-midi, le PSG a battu Saint-Etienne 3-2. Au classement, Lille ne compte plus qu'un point d'avance sur le PSG et 2 sur Monaco. Ce soir, Lyon joue à Nantes. Les Lyonnais devront gagner pour ne pas être décrochés de ce trio de tête.
La Ligue des Champions dames est l'exploit des joueuses du PSG qui ont éliminé l'Olympique Lyonnais cet après-midi.
Oui, battu 1-0 à domicile par l'OL en quart de finale aller. Les Parisiennes se sont imposées 2-1 au retour. Les Lyonnaises restaient sur 5 victoires consécutives dans cette Ligue des Champions. Ça permet de mesurer la performance des joueuses du PSG. Écoutez la défenseuse canadienne Ashley Lawrence.
Chaque fois on affronte Lyon, c'est un match serré, le haut niveau. Mais nous, on a toujours cru que même si on a pris un but, on peut marquer. Alors, je pense que oui, on n'a pas très bien démarré, mais ça durait que 5 minutes et après, on était dedans. Et collectivement, je pense qu'on a montré beaucoup de caractère. On a toujours resté concentré sur nos objectifs de qualifier.
Et en demi-finale de cette Ligue des Champions, les joueuses du PSG affronteront le FC Barcelone.
Stefanos Tsitsipas, tout en haut du rocher, il vient de remporter le tournoi du tennis de Monte-Carlo.
Oui, le premier grand rendez-vous de la saison de terre battue. La finale opposait Tsitsipas au russe Andrei Rublev, deux représentants de la nouvelle génération. Le grec s'est largement imposé 6-3-6-3. Il confirme, Fabrice Abgral, qu'il est promis à un très grand avenir.
Il est l'un des joueurs symboles de la nouvelle génération au même titre que Daniil Medvedev, l'actuel numéro 2 mondial. Tsitsipas lui occupe la 5e place, mais il va encore progresser dans la hiérarchie. Le grec n'a que 22 ans et il possède encore une énorme marge de progression. Tsitsipas est un joueur complet, capable de jouer et de gagner sur toutes les surfaces. Son tennis est solide et spectaculaire, il sait tout faire, jouer en fond de court et soutenir l'échange. Il est aussi très habile à la volée, il frappe fort, il peut aussi temporiser, variant le jeu, les effets, les trajectoires et la puissance de la balle. Il se sent à l'aise partout. Il peut gagner sur terre battue, en plein air, comme à Monte-Carlo, où il vient de remporter son premier Masters 1000, ou en salle, sur surface rapide, comme en 2019, quand il a remporté le Masters de Londres, le titre le plus prestigieux de sa carrière. Il n'est plus très loin non plus d'un premier trophée en Grand Chelem. Il a déjà disputé 3 demi-finales, 2 à l'Open d'Australie en 2019 et cette année, et une autre l'an passé à Roland-Garros. Ce titre obtenu à Monte-Carlo, sans perdre un set, fait désormais de Tsitsipas l'un des prétendants au titre porte d'Auteuil dans un mois et demi.
Oui, Roland-Garros du 30 mai au 13 juin, un tournoi que va disputer Roger Federer. Il l'a confirmé cet après-midi sur son compte Twitter.
Alors, à 3 mois des JO de Tokyo, les championnats d'Europe de judo se disputaient ce week-end à Lisbonne, Vincent.
Voyons l'absence des deux chefs de file du judo français, Teddy Riner et Clarisse Agbenienou, qui ont choisi de faire l'impasse pour mieux préparer ce rendez-vous olympique. Pour certains bleus, cette étape portugaise était essentielle. Bonsoir Stéphanie Mora.
Bonsoir Vincent.
Envoyé spécial de France Inter à Lisbonne. Bilan tricolore plutôt satisfaisant chez les filles et encore une fois décevant chez les garçons.
C'est ça, 8 médailles au total et la satisfaction du jour chez les filles, elle s'appelle Léa Fontaine, 19 ans à peine, la réunionnaise. Ça fait 3 ans qu'elle est en métropole, ça fait 6 ans Vincent qu'elle s'est mise au judo et la voilà vice-championne d'Europe chez les plus de 78 kilos. C'est vraiment une journée qu'elle a survolée en éliminant la vice-championne en titre, en éliminant une des médaillées aussi de la dernière édition. Très zen Léa Fontaine donc, qui est une jolie surprise. On peut dire que Roman Dico peut laisser la boutique si jamais il lui arrivait quelque chose, mais Roman, on le sait, on la retrouvera au jeu. Les deux autre médaille du jour, Fanny Estelle Posvit, petite déception, que le bronze pour la numéro 3 mondiale, et puis également une bonne médaille là pour les garçons, puisque vous le disiez, c'est compliqué chez les garçons. Alexandre Idir a remporté sa première médaille de bronze européenne en moins de 100 kilos, ça lui permet de faire un petit pas de plus vers Tokyo dans cette catégorie, parce que c'est vrai qu'en début de semaine, eh bien, les sélectionneurs de l'équipe de France vont devoir trancher dans cette catégorie, mais aussi dans les plus légers, où là Luca Merenze, qui a été lui médaillé d'argent vendredi, a aussi une bonne option. Reste la question des poids moyens, les 73 kilos, les moins de 81, où là on n'a pas encore les quotas, ou très peu ou très juste, et ce n'est pas encore satisfaisant. 8 médailles, je vous le disais, mais qu'un seul titre, hein, on retiendra ça aussi de ce week-end, celui d'Amandine Buchard vendredi, en l'absence de Clarisse Agbenienou, en l'absence de Madeleine Malonga ou de Romane Dico. Ça reste en demi-teinte, on va dire que l'équipe de France est solide, mais elle n'est pas complètement sereine à l'approche des Jeux dans certaines catégories.
Stéphanie Mora en direct de Lisbonne, deuxième victoire d'affilée pour Fabio Quartararo. Le motard français a remporté cet après-midi le Grand Prix du Portugal. Il prend la tête du championnat du monde de MotoGP. Et puis Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le circuit d'Imola. Il a devancé Lewis Hamilton, premier français, Pierre Gasly, huitième.
Un témoignage à présent où quand les cyclistes ont un gros coup de pompe. Théo Nonez, 21 ans, jeune cycliste professionnel, a annoncé cette semaine l'arrêt de sa carrière, victime d'un burn-out. L'ancien coureur prend la parole ce soir pour la première fois pour briser le tabou de la dépression chez les sportifs de haut niveau et pour alerter aussi sur les dangers du culte de la performance, une pression sur des coureurs de plus en plus jeunes. Thomas Nonez témoigne au micro de Fanny Lechevestrier. C'est le long format de ce soir.
Quand on a joint Théo Nonnez jeudi après-midi, sa voix était claire, posée, mais il n'en a pas toujours été ainsi, avec des moments très compliqués, décrit-il avec pudeur, jusqu'à ce jour de décembre 2020, où il fond en larmes sur son vélo.
J'étais à l'entraînement, je me demandais, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es là? Je me demandais quel sens avait ma vie. Et pour être honnête, j'en trouvais pas.
Et de nous décrire la spirale qui l'a happé et conduit à ne plus se reconnaître.
Je faisais plus grand-chose de ma vie, hormis du vélo. Chaque heure de sommeil compte, l'alimentation, tout est au millimètre. J'avais un grand plaisir, c'est d'aller me balader, notamment dans Paris. Et en fait, on peut pas se remettre ça, parce que si tu vas marcher 2 heures, le lendemain matin à l'entraînement, tu vas le payer. Tout le monde performe, tu te dois de performer. Puis j'ai mon entourage qui s'est beaucoup sacrifié. Je me suis sacrifié aussi. J'avais pas le droit de pas performer, en fait.
Théo Nonnez, sur qui reposait de nombreux espoirs depuis un titre de champion de France junior en 2016, a fini par craquer. Impossible pour lui de s'épanouir dans ce culte de la performance qui s'immisce même chez les plus jeunes.
Il y a un phénomène vraiment impressionnant dans le sport, c'est qu'on se professionnalise de plus en plus. Plutôt, aujourd'hui, il y a des équipes cyclistes qui suivent des minimes, donc des petits qui ont entre 12 et 14 ans. Je sais que moi, en junior, on s'entraînait de plus en plus. Il y en avait déjà qui avaient arrêté les études pour se consacrer totalement au vélo. Je trouvais ça aberrant. Sauf qu'arrivé 1 ou 2 ans après, j'ai dû m'y mettre aussi. Parce qu'au bout d'un moment, t'as plus le choix, en fait. Tout le monde le fait. Si tu le fais pas, tu prends du retard. Comment on veut que les jeunes prennent le temps de grandir? On voit des Remco Evenepoel, des Pogacar, etc. Mais il y en aura combien qui passeront à la trappe?
Inquiet, l'ancien champion est aussi soulagé d'avoir enfin pu parler ouvertement de son mal-être, aidé en cela par le médecin de son équipe, pour mettre des mots sur ce qui reste tabou, la dépression des sportifs de haut niveau.
C'est un peu, peut-être pas une honte, mais c'est mal vu d'être, comment dire, dans un milieu où tout le monde, on pourrait dire, rêve de passer pro, etc. Moi, je vivais ça. De dire qu'on n'est pas épanoui là-dedans, c'est quand même assez compliqué, surtout dans un entourage où tout le monde vit vélo. En fait, j'ai envie de dire qu'on a le droit de ne pas être bien, c'est pas nous le problème. Il y a moyen de changer, il y a moyen de faire autrement, de peut-être adapter les méthodes d'entraînement, je ne sais pas, la vision des choses, la vision du sport, pour se sentir bien, en fait. Moi, je me dis que si j'en avais parlé plus tôt, j'aurais peut-être pu adapter certains trucs. Un jour, ça va exploser, en fait. Il y en a de plus en plus des cas comme moi.
Mais Théo Nonnez nous répète à plusieurs reprises ne pas vouloir se prendre pour un autre ou cracher sur ce qu'il a tant aimé. Il reste d'ailleurs le premier supporter de ses anciens coéquipiers. Il espère seulement que raconter ce qui lui est arrivé pourra servir à d'autres.
Thomas Nonnez avec Fanny Lechevestrier.
Le journal de 19h. Frédéric Barrère.
À suivre la semaine prochaine, on ouvre l'agenda des temps forts de l'actualité de la semaine qui vient avec un déplacement demain à Montpellier d'Emmanuel Macron sur le thème de la sécurité au quotidien. À noter mardi le coup d'envoi des états généraux de la laïcité annoncé par Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté, avec notamment une grande consultation auprès des jeunes. Mardi également, le tribunal de commerce de Lille désignera le repreneur de la société de fourniture de bureaux Office Dépôt, 13 offres de reprise pour une société de 1500 salariés et puis également un nouveau patron pour L'Oréal. Jean-Paul Agon passe le relais à Nicolas Hieronymus, pur produit de l'entreprise L'Oréal. À l'étranger, un programme chargé la semaine prochaine aux États-Unis avec le verdict attendu dans les prochains jours au procès de l'ancien policier Derek Chauvin, jugé pour le meurtre de George Floyd. Et jeudi, à noter le sommet climat organisé par Joe Biden. Bonsoir Grégory Phillips, correspondant de France Inter à Washington.
Bonsoir Frédéric.
C'est l'une des priorités du nouveau président américain.
Et d'ailleurs, dès son premier jour à la Maison-Blanche, Joe Biden avait annoncé d'une part le retour des États-Unis dans les accords de Paris, mais quasiment dans la foulée, il avait aussi promis d'organiser un sommet climat avec les autres dirigeants de la planète. Ce sera donc ce jeudi 22 avril, jour de la Terre. Ce sera, pandémie oblige, une rencontre virtuelle. Au total, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement ont été conviés, du président français Emmanuel Macron à la chancelière allemande Angela Merkel, en passant par le chinois Xi Jinping. D'ailleurs, l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, était à Pékin il y a 2 jours pour préparer ses échanges. L'objectif des Américains, c'est quoi? C'est de montrer que la nouvelle administration a fait du changement climatique l'une de ses priorités, contrastant évidemment avec le gouvernement précédent. Et jeudi, Joe Biden devrait annoncer pour son pays un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. L'Amérique est de retour, y compris sur cette question du climat.
Et on terminera la semaine avec la fin d'une expérience dans l'Ariège. Cet homme et cette femme ont vécu hors du temps pendant 40 jours au fond d'une grotte et ils se déconfinent samedi. Mais le temps fort de l'actualité la semaine prochaine, c'est la deuxième mission de Thomas Pesquet dans l'espace. L'astronaute français décolle jeudi de Houston pour une mission de 6 mois à bord de la station spatiale internationale. Alors forcément, Sophie Becherel, notre spécialiste science, a voulu savoir comment Thomas Pesquet avait préparé sa longue quarantaine scientifique dans l'espace en période de quarantaine sur Terre. Alors elle lui a posé la question. Sophie Becherel avec Thomas Pesquet.
J'ai fait une liste, évidemment, ma compagne sera là, mes parents, mon frère. Alors j'ai 80 en tout personnes qui peuvent venir. Je vous cache pas que ça a été compliqué aussi à cause de la situation sanitaire. C'est pas encore tout à fait gagné. Les frontières des États-Unis sont quand même un peu fermées. La France est en confinement. Il y a beaucoup de contraintes. Donc au final, peut-être qu'il y aura personne ou presque personne à part ma compagne. Peut-être qu'il y aura les 80, je sais pas trop. Mais c'est important pour moi parce que quelque part, ça se passe toujours bien. Mais quand même, quand on décolle, on se dit, c'est important d'avoir vu tout le monde, d'avoir dit au revoir aux gens à qui on souhaitait dire au revoir, et puis voilà, d'avoir mis ses affaires en ordre, parce que c'est quand même pas anecdotique de se lancer dans un voyage comme ça, et puis de le faire entouré de ses amis, et que ceux qu'on laisse derrière soi soient entourés aussi, c'est très important. Ouais.
Et la grosse vanne cette année, c'est pas qu'un équipage qui est confiné depuis un an en redemande et retourne vivre un autre confinement dans l'espace ?
Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que un confinement d'un an, c'est. Alors, est-ce que c'est la meilleure préparation ou la pire préparation pour un confinement de 6 mois? Je sais pas. Mais peut-être les gens sur Terre auront la réponse, malheureusement. Mais non, oui, c'est vrai que la blague qu'on fait un petit peu, c'est aussi que nous, on quitte la Terre un peu au bon moment. Hein. On quitte une situation qui est quand même pas toujours très joyeuse. Et puis, on espère revenir vers une situation dans 6 mois, allez, 6-7 mois, où tout sera réglé. C'est un peu le projet qu'on fait. Je sais pas si ça se passera comme ça, mais je l'espère.
Face à la starisation des astronautes, en tout cas, finalement, quand il y a un astronaute par pays, tout de suite, c'est assez énorme. Vous répondez souvent que vous faites votre job, point final. Ça reste quand même un métier qui impressionne, et pas seulement les enfants. Et moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous impressionne ou qui vous impressionne dans la vie ?
Moi, il y a plein de gens qui m'impressionnent. Je suis absolument pas bricoleur. Les gens qui sont bricoleurs, ma compagne est très bricoleuse, ça m'impressionne à chaque fois. D'une manière générale, nous, on est beaucoup aidés, en fait. C'est vrai qu'on est assez visible, mais vraiment, enfin, on le répète assez souvent, mais c'est sincère. On est un petit bout, la partie émergée de l'iceberg. Il y a des centaines d'ingénieurs qui nous mâchent le travail, qui sont là pour nous aider, qui nous écrivent des procédures qu'on a juste besoin de suivre à la lettre, qui nous disent quoi faire quand on va à la salle de sport, etc., etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'aide. Moi, ce qui m'impressionne, c'est les gens qui font des choses un peu plus seuls, en fait. J'ai beaucoup parlé aux navigateurs du Vendée Globe, aux navigatrices, des gens comme ça qui se lancent tout seuls à l'assaut des océans. Ça m'impressionne parce que j'ai l'impression que c'est plus difficile, en fait. Moi, j'ai l'impression que vraiment tout le monde est là pour m'aider. Donc, au final, c'est pas si compliqué.
Passionnant, Thomas Pesquet, dans cette aventure extraordinaire. Eh bien, vous retrouverez Thomas Pesquet tous les samedis sur France Inter dans le journal de 13h. Il nous proposera, avec Sophie Becherel, son carnet de bord spatial, les expériences effectuées, les impressions de Thomas Pesquet, ses défis. Bref, vous saurez tout sur son séjour sur orbite. Carnet de bord de Thomas Pesquet, tous les samedis dans le journal de 13h sur France Inter. Au générique de cette édition, Nicolas Delmas et Florent Bujan en régie qui m'ont aidé à préparer ce journal, avec Lionel Thompson à la rédaction en chef, assisté d'Hélène Barbet et Julien Loquet. Merci à l'équipe et merci à vous d'avoir écouté ce journal. Le temps pour demain.
La météo avec les meubles Gautier, créateurs, designers et fabricants français de meubles pour toute la maison. À retrouver dans nos magasins et sur gautier.fr.
Jean-Michel Golinski.
Demain, en fin de nuit, dernière gelée sous abri de la série, notamment dans l'intérieur de la Bretagne et de la Normandie, vers 0-1 degré. Ailleurs, les valeurs sous abri seront positives, mais avec encore quelques gelées blanches possibles en campagne. Ensuite, le redoux va nettement s'affirmer. D'ailleurs, demain après-midi, les valeurs vont partout gagner par rapport à ce dimanche, avec 18 à 20 degrés de l'Aquitaine au golfe du Lion et 14 à 17 plus au nord, soit 2 à 3 degrés de plus qu'aujourd'hui. Le ciel sera souvent variable, avec toujours davantage de nuages sur la façade est et le maintien d'un risque d'averse, très localement d'orage, entre le Grand Est, les Alpes et la Corse, avec de la neige sur les massifs au-dessus de 1500 mètres. Et puis sur une large moitié ouest du pays, sans être le bleu parfait, l'horizon sera quand même le plus souvent bien dégagé.
Jean-Michel Golinski de Météo France.